Les grands événements du Collège de France.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors nous allons commencer cet échange pour cette troisième session de ce second cycle donc, que nous organisons ici avec le parrainage de l'initiative donc, Avenir commun durable. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Ce soir, nous aurons une table ronde qui concernera plutôt un sujet un peu différent de la dernière fois, puisque cette fois-ci nous tournons vers une question plutôt économique et sociétale qui concerne donc, comme vous pouvez le voir ici, trois termes que nous considérons très importants, pauvreté, nature et résilience, donc qui caractérisent des différentes sociétés. Donc nous allons vous faire une courte présentation, puis ensuite nous passerons aux échanges. Pour commencer, je vais vous expliquer et vous présenter un paradoxe, ou plutôt plusieurs paradoxes, que nous avons retrouvés au travers des différentes ressources que nous avons consultées. Il y a un premier paradoxe qui concerne, qui traverse toute la politique climatique. Les populations qui sont le moins responsables du dérèglement climatique actuel et du changement climatique sont celles qui subissent le plus. Il va de soi que vous voyez actuellement donc dans les phénomènes les plus impressionnants qui ont lieu sont souvent dans des pays qui malheureusement n'ont pas les infrastructures suffisantes pour pouvoir survivre tout simplement. Je vais vous soulever donc un autre paradoxe qui cette fois-ci concerne plus l'économie actuelle et les publications vis-à-vis de l'économie actuelle. Puisque pendant longtemps, l'économie de l'environnement a été considérée comme une discipline périphérique de la science économique, comme si la nature et la justice sociale n'étaient pas des variables d'ajustement, alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui que ce sont précisément celles qui déterminent la résilience de nos sociétés. Il y a donc ce concept que nous avons remarqué ici de « publish or perish », qui indique donc une augmentation du nombre de publications et que si vous ne publiez pas, c'est quelque chose d'assez connu au niveau des scientifiques, eh bien, vous disparaissez de la littérature scientifique et vous disparaissez des écrits. Un dernier petit paradoxe que nous avons relevé, qui vient donc directement du rapport de l'IHLEG, c'est que l'Afrique abrite 60% des meilleurs gisements solaires, c'est un petit exemple mais qui vous permettra aussi d'y réfléchir, mais reçoit moins de 2% des investissements pour une énergie propre, des investissements donc mondiaux. Voici toute l'ampleur des paradoxes. Ensuite, pour faire un petit lien, nous avons fait un petit triptyque. Un petit triptyque qui sont en lien donc avec ces mots-clés que j'ai évoqués en introduction, pour cadrer la discussion. Alors tout d'abord, vous avez la pauvreté. C'est une pauvreté, donc ce n'est pas seulement une question de revenu. On peut toujours penser que c'est quelque chose de revenu salaire moyen, mais c'est aussi une exposition asymétrique au choc, une faible capacité d'adaptation, comme je le mentionnais précédemment, et une dimension intergénérationnelle. Les choix que nous faisons aujourd'hui pèsent sur ceux qui n'ont pas voix au chapitre, finalement. Ensuite, vous avez la nature. C'est là que se joue un déplacement conceptuel majeur sur lequel nous reviendrons, évidemment. On est passé d'une nature pensée comme un stock de ressources à exploiter à une nature comprise comme un ensemble de fonctions régulatrices sans substitut, donc le climat, la biodiversité, les cycles du carbone et l'eau et plein d'autres choses. Et enfin, la résilience, capacité d'un système à absorber un choc sans s'effondrer, mais c'est aussi, on le verra, un mot-valise qu'il faut parfois un peu interroger. Je vais vous donner ici quelques petits chiffres et petits ordres de grandeur. Vous avez, pour donner une mesure de ce dont on parle, le rapport IHLEG, donc, que j'évoquais précédemment, estime à 6 500 milliards de dollars par an d'ici 2030 les besoins mondiaux d'investissement dont nous aurons besoin. Sur ce total, environ 2 400 milliards concernent les pays émergents et en développement, hors Chine, puisqu'il va de soi que, ce qu'on voit dans tous les médias, la Chine investit déjà massivement dans la transition énergétique de par sa possession notamment sur le marché du solaire ou de l'éolien. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, les co-bénéfices et coûts évités d'une transition bien menée représenteraient entre 15 à 18% du PIB mondial, donc à l'horizon 2030, des économies qui sont donc pas non négligeables. Autrement dit, donc la question n'est pas tellement peut-on se le permettre, mais plutôt qui paye, qui en bénéficie et qui est dans une catégorie à part. Et quel est le calendrier ?
Alors, à l'instant, Henri vient d'évoquer un déplacement conceptuel de notre manière de nous représenter la nature en tant que société, qui est assez intriqué à un changement de paradigme. Pendant longtemps, l'économie, elle a plutôt pensé la nature comme un stock de ressources qu'on exploite jusqu'à l'épuisement. Et l'ensemble de la pyramide économique, elle était hiérarchisée selon la disponibilité et la rareté de la ressource considérée. Et le déplacement contemporain, il consiste à comprendre la nature plutôt comme un ensemble de fonctions régulatrices, plus que comme un stock sans substitut technologique. Donc, par exemple, le climat, la biodiversité, les cycles du carbone, l'eau, la pollinisation, la fertilité des sols, etc., sont des fonctions qui dépendent de la viabilité de nos sociétés et que rien, même pas la technologie, ne peut remplacer. Donc, la conséquence qui est importante pour notre sujet, c'est que la pauvreté, ce n'est pas seulement une affaire de revenus monétaires, mais c'est aussi une affaire de perte d'accès aux fonctions régulatrices du vivant, les sols dégradés, l'eau contaminée, le climat social devenu inhabitable, etc. On fait également face à un déplacement politique, une transition climatique qui ignore les inégalités, elle est politiquement intenable, puisque l'expérience des gilets jaunes, par exemple, à l'échelle nationale, l'a montré. Une taxe carbone qui a été perçue comme injuste socialement, elle déclenche une crise politique assez marquée. À l'échelle internationale, la tension elle est encore plus flagrante, puisque les pays les moins responsables des émissions historiques sont à la fois les plus exposés aux conséquences et les moins outillés pour financer leur propre transition. Donc le rapport IHLEG dont Henri a parlé, qui chiffre à peu près à 1 000 milliards de dollars, énorme, par an, le financement externe nécessaire aux pays émergents et en développement d'ici 2030. Donc l'enjeu, c'est de passer d'un principe, celui des responsabilités communes et différenciées. Donc, je rappelle ce que c'est le postulat que les dommages environnementaux sont issus de l'industrialisation de certains pays, et donc il serait injuste de soumettre les pays en développement aux mêmes mesures coercitives et contraignant à la réparation des dommages. Donc, il faudrait passer du principe de responsabilité commune et différenciée, qui a été fondateur de la Convention climat en 1992, à des mécanismes concrets de financement. Donc, sans glisser vers ce que certains chercheurs appellent une responsabilité déplacée, ce qui serait un scénario où les coûts de la transition basculent finalement vers les pays du Sud. Cette table ronde va être l'occasion on va se poser quelques petites questions. Alors, trois questions ouvertes qui vont structurer le débat de ce soir. Vous les avez à l'écran. Donc, comment penser ensemble trop de carbone fossile et pas assez le carbone vivant ? Faut-il monétiser la nature pour la protéger ? Et enfin, la résilience est-elle un horizon politique ou un alibi à l'inaction ? Messieurs, je vous laisse rejoindre le pupitre.
Oui, tout à fait. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Nous allons vous laisser vous présenter si vous le souhaitez bien.
Je commence. Bon, moi, je m'appelle Christian de Pertuis. Je suis prof d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Vu mon âge avancé, ce qu'on appelle émérite, c'est-à-dire que l'université arrête de vous payer quand vous avez atteint l'âge fatidique de 67 ans, j'ai complètement changé ma façon de faire de l'économie en 2001, entre 2001 et 2003, après avoir rencontré les climatologues, Jean Jouzel et quelques autres. Et depuis cette époque-là, j'axe à la fois mes travaux de recherche, mes enseignements, mes engagements citoyens, pour essayer de mettre l'économie au service de l'action face au dérèglement climatique et biodiversité que vous avez fort bien introduit. Et je vous remercie au passage de votre invitation.
Eh bien, moi, je vous remercie aussi pour l'invitation. Donc, moi, je suis chercheur au CNRS et j'ai pas mal bourlingué, en fait, parce que j'ai travaillé dans différents endroits, un peu partout en France et aussi un peu à l'étranger. Notamment, j'ai passé 10 ans aux États-Unis. Et j'ai travaillé pour commencer sur les questions de justice sociale et la définition de l'équité, qui est un thème assez intéressant en économie, ou comment définir l'équité quand on a des populations qui ont des besoins ou des projets de vie différents, avec des ressources multidimensionnelles. Voilà, donc des études plutôt théoriques, plutôt mathématiques. Et puis j'ai été amené à participer au cinquième rapport du GIEC. Et ça m'a amené à travailler par la suite avec des collègues sur l'économie de l'environnement. Avant, je travaillais plutôt sur le social, et après, j'ai aussi intégré la dimension environnementale en essayant de, justement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, là, d'intégrer dans l'étude des questions environnementales la question sociale, et notamment la question des inégalités, qui est incontournable. Mais on y reviendra sûrement.
Très bien. Je vous remercie.
Première question, et pas des moindres. Faut-il monétiser la nature pour la protéger ?
Et finalement, oui, est-ce que les services écosystémiques, le prix du carbone et la comptabilité environnementale, est-ce que ces outils sont des leviers ou des pièges par rapport donc à l'inclusion du climat dans les questions économiques ? On vous laisse.
Bon. Merci de me demander de commencer. Moi, je vais répondre assez clairement. Les deux. Ça dépend beaucoup des conditions dans lesquelles on utilise ces instruments. Alors, moi, ma façon de raisonner est un peu différente suivant qu'on va considérer ce que j'appelle le carbone fossile ou le carbone vivant. Sur le carbone fossile, en gros, trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz, sont à l'origine de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, on n'a aucune chance de stabiliser le thermomètre si on ne sort pas très rapidement nos systèmes économiques et nos systèmes sociaux de cette dépendance à l'énergie fossile. Pour le carbone fossile, je pense que l'instrument de la tarification carbone est un très bon instrument, à condition d'être introduit de façon cohérente. C'est-à-dire, ce qui compte, ce n'est pas la taxation ou le niveau du prix du carbone qu'on va mettre en place, c'est l'usage qu'on va faire des ressources qui proviennent de cette tarification carbone. Je rebondis sur la taxe carbone en France et les gilets jaunes, puisque il se trouve que j'ai été à l'origine de l'introduction de cette taxe carbone en 2014, puisque j'avais présidé le comité pour la fiscalité écologique. Sur la base des propositions que j'avais formulées au gouvernement à l'époque, que cette composante carbone a été introduite par la loi de finances de 2014. Dans les propositions que j'avais faites au gouvernement, j'avais clairement indiqué qu'il fallait redistribuer soit 35% du produit de la taxe carbone si on limitait la redistribution aux 4 premiers déciles de revenus les plus bas, soit 75% du produit de taxe carbone si on voulait faire une redistribution plus large pour éviter que la taxe carbone ne soit pénalisante pour les bas déciles de revenus. Le gouvernement a pris le volet taxe, il n'a pas pris le volet redistribution. Donc, à mes yeux, le mouvement des gilets jaunes qui a été provoqué par, pas que la taxe carbone, parce qu'il y avait le prix du diesel qui a joué un sacré rôle là-dedans, le mouvement des gilets jaunes trouve sa source dans un système où on n'a pas redistribué la taxe carbone et dans un système où on n'a absolument pas communiqué sur l'instrument entre 2014 et 2018. Cette redistribution d'une tarification carbone à l'intérieur des pays trouve son pendant possible au niveau international, puisque, à l'évidence, si on met une tarification carbone sur le carbone fossile, on va générer des ressources beaucoup plus importantes dans les pays industrialisés. Et si on redistribue ces ressources vers les pays moins avancés, dont vous avez rappelé la position par rapport au réchauffement climatique, alors on a un instrument qui est tout à fait intéressant, parce qu'il peut coupler les bonnes incitations économiques avec des règles minimums d'équité, sur lesquels mon voisin de gauche est beaucoup plus spécialiste que moi. J'ai le droit de dire deux mots sur le carbone vivant ou c'est trop... Vous m'arrêtez si je suis trop long, hein, parce que vous savez, moi, je suis passionné par ces choses-là, donc je peux être trop long. Sur le carbone vivant, c'est quoi le carbone vivant ? C'est le cycle du carbone, hein, qui démarre avec la photosynthèse grâce aux végétaux, puisque nous-mêmes, animaux, nous ne savons pas utiliser le carbone atmosphérique pour notre croissance, et qui ensuite, via toutes les transformations dans les chaînes alimentaires, agricoles, forestières, hein, va transformer ce carbone et va permettre en fait le fonctionnement de la vie. Donc sur le carbone vivant, le problème n'est pas d'introduire de la rareté sur trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz. Le problème, c'est de réintroduire de l'abondance. Mais pas de l'abondance de biens et services liés à l'énergie fossile, de réintroduire de l'abondance du vivant. Et donc, sur le carbone vivant, avec les problèmes très connus et très médiatisés de la déforestation et nettement moins connus des systèmes agricoles, et notamment des liens entre les systèmes agricoles, la forêt, les sols, etc. Là, on est sur des méthodes qui, à mon avis, ne peuvent pas être traitées sous la base d'une monétisation des systèmes. C'est des systèmes beaucoup plus complexes. On peut essayer d'introduire une valeur liée à la diversité biologique, mais good luck, hein, quand on va rentrer dans le réel, parce que sur le carbone fossile, vous avez un espèce d'étalon universel, hein, qui est l'équivalent CO2. Sur la biodiversité, il est beaucoup plus difficile de trouver les instruments permettant de donner une valeur à la biodiversité, puisque cette valeur est toujours dépendante des contextes, notamment des contextes écosystémiques, qui sont évidemment totalement différents entre le bassin parisien, la plaine dans la périphérie d'Alger, dans la forêt amazonienne. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus compliqué, et la monétisation sur le carbone vivant a souvent donné des désastres en matière d'application, notamment lorsqu'on pensait, avec quelques crédits carbone, à pouvoir reboiser des milliards d'hectares, etc. Voilà.
Moi, j'ai envie de revenir sur l'expression de piège que vous avez utilisée dans la question. Effectivement, il y a des pièges dans l'utilisation de l'outil monétaire ou de la mesure monétaire. Je voudrais notamment en évoquer deux. Il y en a un qui est effectivement en rapport avec la question des inégalités. Lorsqu'on met en place une taxe sur des comportements de pollution, par exemple les émissions de gaz à effet de serre, etc., beaucoup de gens réagissent en disant « oui, mais c'est injuste parce que les riches peuvent toujours continuer à garder leur comportement de pollueur et payer la taxe, et pour eux, ça ne les gêne pas ». Donc ça introduit une inégalité dans l'accès à certains comportements, et cette inéquité paraît particulièrement révoltante. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile, enfin qui n'est pas très bien pris en compte par les analyses économiques standard, mais qui joue un rôle, je pense, assez important dans l'acceptabilité politique de certaines mesures, et notamment de mesures de type fiscal. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et lorsque les économistes s'intéressent à la question « est-ce qu'il faut une politique en termes d'incitation financière sous forme de taxes ou de subventions à des comportements vertueux, hein, ça peut aller dans les deux sens, ou est-ce qu'il faut plutôt une politique de réglementation un peu plus directe et brutale, avec des normes, des interdictions, des choses comme ça ?» Eh bien, les économistes ont tendance à dire « oui, les normes, ça marche pas très très bien, parce que ça s'applique de façon uniforme, un peu aveugle, à tout un tas de parties prenantes, d'acteurs, qui peuvent avoir des conditions sous-jacentes de mise en œuvre de ces normes qui sont très différentes. Et donc, ça introduit des inefficacités, au sens où la même norme qui s'applique à tout le monde de façon indifférenciée, ça va introduire un coût très élevé pour certaines personnes, lorsque les conditions de comportement vertueux sont plus compliquées. Pensez par exemple aux gens qui habitent à la campagne et qui ont besoin de se déplacer avec une voiture et ne peuvent pas faire autrement, par rapport à des Parisiens qui peuvent se débrouiller sans aucune voiture. Voilà, donc il peut y avoir des inégalités de ce genre. Et donc les normes peuvent paraître inefficaces de ce point de vue, alors que lorsqu'on introduit des incitations financières, eh bien, tout le monde va se caler sur cela, et en fonction des besoins sous-jacents, en fonction des coûts personnels que les différents acteurs peuvent avoir, eh bien, ils vont s'ajuster, et donc c'est beaucoup plus efficace, et ça permet notamment de réduire le coût total d'ajustement des comportements dans l'ensemble de l'économie. Donc voilà des considérations qui sont à prendre en compte. Et donc, je dirais, effectivement, il y a un piège là dans lequel, d'une certaine façon, l'analyse économique traditionnelle est souvent tombée, qui consiste à dire l'instrument monétaire, ça va très bien, et c'est très efficace parce que ça permet de minimiser le coût global, mais ça néglige ces questions d'équité, et ça néglige, finalement, l'attrait que peuvent avoir des normes plus directes, moins économiques, pour certaines populations qui peuvent considérer que c'est au fond plus juste. Si c'est interdit pour tout le monde, c'est interdit pour tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre, eh bien on est soumis à la même règle. Ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège qui peut survenir lorsqu'on monétise les choses, et là je m'intéresse plutôt à la question de la mesure, hein, ce qu'évoquait Christian tout à l'heure sur, voilà, par exemple, la mesure de la biodiversité ou de la valeur des écosystèmes, des choses comme ça. Là, il y a un piège qui est souvent soulevé, avec raison, qui est que ça peut rendre, si on dit, voilà, tel écosystème, ça vaut tant, eh bien, ça introduit une sorte de fongibilité entre cet écosystème et le reste de l'économie. Hein. Et donc, l'exemple le plus saillant de ce type de problème, c'est lorsqu'on calcule l'ensemble des valeurs de capitaux que l'on lègue à la génération suivante, en mêlant ensemble les capitaux construits de façon industrielle, par exemple, les bâtiments, les équipements et tout ça, et les capitaux naturels, les stocks qui sont dans les écosystèmes sous diverses formes, sous forme de, voilà, de fonctions régulatrices, sous forme de stocks de biomasse, etc. Et donc, si on met des euros sur tout cela et qu'on additionne tout cela, on a l'impression, eh bien, que si on fait suffisamment d'efforts en matière d'investissement en bâtiments, en équipements, en R&D, etc., eh bien, ça peut compenser n'importe quel niveau de destruction sur la nature. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est a priori très inquiétant. Et on s'aperçoit, oui, que certaines applications de ce type de mesures, hein, ce qui s'appelle notamment dans les calculs, dans les statistiques de la Banque mondiale, l'épargne nette ajustée qu'on calcule, c'est-à-dire quelle est la variation du capital que l'on lègue aux générations suivantes ou à l'année suivante quand on raisonne année par année. Et la Banque mondiale agrège effectivement l'ensemble des capitaux. Elle intègre aussi le capital humain, c'est-à-dire le niveau de formation, le degré d'éducation des populations humaines. Et les chiffres qu'elle obtient sont des chiffres qui sont, de façon très inquiétante, extrêmement rassurants, si je peux dire, dans un paradoxe. Voilà, c'est des chiffres qui disent qu'en gros, tous les pays sont pratiquement sur une trajectoire soutenable parce qu'ils laissent plus au futur qu'ils n'ont reçu de leur prédécesseurs. Et donc, d'un certain point de vue, tout va bien. Hein. Le taux d'épargne nette est très élevé dans la plupart des pays, y compris dans des pays comme les États-Unis, l'Arabie Saoudite, etc. Tous ces pays sont extrêmement soutenables d'après ces statistiques. Donc, évidemment, ça pose question. Et alors, où est l'erreur? Où est le piège dans cette affaire-là? Eh bien, l'erreur, elle vient du fait que la valeur que l'on met sur le capital naturel, dans la théorie, si on appliquait bien la théorie économique, c'est là que je me retrouve souvent à défendre la théorie économique contre les applications qui en sont faites. Si c'était bien fait, eh bien cette valeur dépendrait vraiment de l'impact que ce qu'on fait, des destructions que l'on inflige à ces capitaux, l'impact que ça a sur les perspectives futures. Et cet impact peut être très fortement non linéaire. C'est-à-dire que quand on atteint un certain niveau de seuil de destruction, eh bien, on peut avoir des conséquences qui deviennent exponentiellement plus importantes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on appliquait bien la théorie, on pourrait toujours donner une valeur monétaire à ces impacts ou à ces capitaux naturels, mais il faudrait que cette valeur fluctue, varie en fonction de ce qu'on prévoit comme conséquence dans la destruction de ces capitaux. Et c'est, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on s'approche d'un seuil critique, il faudrait que la valeur de ces capitaux, elle explose et qu'elle aille pratiquement jusqu'à l'infini pour être sûr qu'on donne toute l'importance qu'il faut à ces capitaux et éviter qu'on atteigne et qu'on dépasse les seuils critiques au-delà desquels des choses irréversibles peuvent se produire. Donc voilà, je voulais évoquer ces deux pièges-là et un peu la difficulté à, je dirais, bien faire de l'économie pour prendre en compte toutes les considérations pertinentes et ne pas le faire de façon brouillonne ou un peu sauvage et qui peut aboutir à des conséquences effectivement inquiétantes et rebutantes pour le public. Les gens ont une image assez négative de l'économie, je dirais, parce que malheureusement, beaucoup de pratiques ne sont pas tout à fait à la hauteur de la théorie.
Très bien, justement, je voulais rebondir là-dessus par rapport justement à un piège qui pourrait être supplémentaire. En y réfléchissant, donc on compare souvent biodiversité, et notamment on pense à l'IPBES, mais aussi donc au COP, donc sur le climat. Il y a donc l'IPBES a été créé, il me semble, en 2012, quelque chose de très récent par rapport au COP, donc qui concerne plus la biodiversité, hein, pour bien évoquer au public. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose, justement, vous parliez du chiffrable et donc du fait que donner un chiffre sur quelque chose pour lui donner une valeur, mais il y a parfois des biodiversités qui sont non estimables, qui ne rapportent pas du tout d'un point de vue monétaire. Et j'ai quelque chose par ailleurs, un petit paradoxe qui me vient en tête. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le climat, qui reste donc plus chiffrable, dans tous les cas prennent le dessus et que finalement la biodiversité qui pourtant joue un rôle majeur, on l'a vu dans la conférence précédente notamment pour les microbes, sont des choses qui sont essentielles pour la vie et pourtant le climat nous paraît quelque chose de beaucoup plus sensé et beaucoup plus chiffrable. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un paradoxe là-dedans et la biodiversité qui risque d'être effacée?
Christian, veux-tu que je commence et après
Oui, peut-être, hein, comme ça, ça permettra de répondre à ce que tu dis.
Eh bien, en fait, effectivement, vous avez raison, c'est plus facile pour le climat, et Christian l'a un peu dit déjà tout à l'heure, le climat, c'est quelques quantités assez simples, hein. Il y a des quantités de carbone fossile, et on connaît les conséquences, l'émission, le fait de brûler du carbone fossile, on sait à peu près mesurer ce que ça fait aux températures moyennes du globe sur un calendrier de plusieurs décennies et même de plusieurs siècles. Donc, on peut essayer de chiffrer ça. Alors, c'est quand même difficile. C'est pas si simple que ça, le climat. C'est quand même difficile parce que les impacts du changement climatique sont difficiles à évaluer. Les études empiriques qui sont faites pour essayer de les chiffrer, elles peuvent difficilement lire dans une boule de cristal ce qui va se passer sur la planète du futur. Donc, elles regardent le passé. Et avec le passé, on a une image qui est potentiellement assez imparfaite de ce qui risque de se passer quand des changements assez complexes dans le système, par exemple si la circulation océanique est perturbée en même temps que d'autres aspects du climat, eh bien les choses peuvent être très compliquées et il y a des modèles qui peuvent décrire ce qui se passe, mais les conséquences sur la société humaine, là c'est beaucoup plus difficile à modéliser et du coup les estimations de ce que ça donnera en termes par exemple de perte de PIB ou en termes de mortalité supplémentaire, ou en termes de conflictualité supplémentaire, parce que c'est aussi les systèmes politiques qui vont être perturbés, ils le sont déjà à cause de phénomènes de type sécheresse, de type catastrophe naturelle. Donc, même le climat, c'est déjà compliqué, parce que les conséquences du changement climatique sur la politique, sur la société, sur l'économie, ne sont pas si faciles à évaluer. Il y a eu des travaux récents qui ont multiplié par 6 l'estimation qui était faite traditionnellement des coûts liés au changement climatique. Donc voilà, donc c'est encore très débattu, très controversé, voilà, il y aurait des anecdotes à raconter sur l'influence de certains pays qui cherchent à mettre le couvercle sur certaines estimations un peu alarmistes. La biodiversité, vous avez raison, effectivement, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que, alors que pour le climat, ce qu'on ne connaît pas bien, c'est finalement la réaction de la société humaine, de l'économie, de la politique au changement de température. Dans le cas de la biodiversité, c'est le système physique lui-même qu'on comprend mal. Parce que, comme c'est une question de fonction régulatrice, comme vous le disiez, il y a des composantes des écosystèmes dont on ne sait pas très bien quelle est la fonction, parce que ces fonctions sont interdépendantes avec les autres composantes. Et cette interdépendance est très compliquée. Elle est aussi très localisée. Dans le cas du climat, si j'émets une tonne de carbone à Paris, cette tonne de carbone, elle aura la même conséquence à terme qu'une tonne de carbone émise à Sydney. Alors que si on détruit une forêt dans la région parisienne, c'est pas du tout la même chose que détruire une forêt du côté de Melbourne. Donc voilà la difficulté, le chiffrage des conséquences, enfin le chiffrage de la valeur pour la société, pour les êtres vivants, on peut aller au-delà des êtres humains d'ailleurs, de la santé des écosystèmes, c'est très, très compliqué. Et donc, on a une difficulté supplémentaire. Et donc, vous avez raison, le risque, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a des consensus qui émergent sur la valeur de la tonne de carbone. En gros, les gens se mettent plutôt d'accord sur, voilà, pour l'année 2030, ça devrait être tant, 2040, ça serait tant, etc. On n'a pas du tout ce type de consensus sur la biodiversité. Et d'ailleurs, l'objet même, on chiffrerait quoi, puisque c'est chaque écosystème qu'il faudrait chiffrer, qu'il faudrait valoriser. Donc ça, c'est un gros handicap, et le risque est effectivement que du coup, ce soit moins bien pris en compte. Je peux donner un exemple aussi, peut-être personnel, très concret. Il se trouve que je préside au commissariat à la stratégie et au plan un comité scientifique sur l'évaluation socio-économique des investissements publics. C'est-à-dire quelles sont les méthodes pour évaluer l'impact positif, négatif des investissements publics. Il faut, pour tous les investissements, il doit y avoir une évaluation ex ante qui donne cette valeur. Eh bien, ce comité... Je viens de prendre la succession de Roger Guenry, qui était prof au Collège de France auparavant et qui a présidé ce comité jusqu'à récemment. Ce comité n'est toujours pas capable d'avoir des propositions très concrètes sur la valorisation de la biodiversité. C'est vraiment un caillou dans notre chaussure, contrairement à beaucoup d'autres aspects pour lesquels on est capable de faire des propositions concrètes. Donc voilà, donc ce problème est vraiment un problème qui embête tout le monde.
Alors, moi, je vais apporter un regard un peu différent. J'ai commencé par le climat en 2003-2004, les émissions de CO2, le carbone fossile. Je rentre pas dans les détails. Et depuis 10 ans, je travaille de plus en plus avec les gens du Muséum national d'histoire naturelle, le carbone vivant. Et je pense que la question climatique est intrinsèquement liée à la question de la biodiversité, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Parce que, d'abord, il n'y a pas que les émissions de CO2 du carbone fossile. Il faut quand même avoir en tête que le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement important et que la première source d'émission du méthane, c'est les systèmes agricoles, aggravés par un peu ce qu'on fait dans les zones humides. Et donc, la question des systèmes agricoles, elle est très fortement sous-estimée dans les questions climatiques, surtout si on regarde le Sud. Parce que quand vous regardez, par exemple, un pays comme le Brésil, carbone fossile, c'est même pas le quart de ses émissions. Oui. Et si vous regardez... Il y a vraiment, je pense, une petite révolution intellectuelle à faire, c'est que la biodiversité joue l'affaiblissement de la biodiversité joue un rôle extrêmement important comme cause d'accélération du réchauffement climatique. Et donc, si on n'agit pas sur la biodiversité, on n'a aucune chance de stabiliser le thermomètre. Et donc, le lien entre climat et biodiversité, il est bidirectionnel. Alors qu'en général, dans les modèles, c'est représenté, vous avez le climat, et le climat va avoir un certain nombre d'impacts, dont un affaiblissement de la biodiversité. En réalité, l'affaiblissement de la biodiversité accélère le réchauffement climatique. Et on n'a aucune chance de gagner la bataille du climat si on ne gagne pas la bataille contre l'érosion de la biodiversité. Donc ça me paraît être le premier point, et les exemples sont très, très concrets, notamment tous les exemples sur le méthane. Le deuxième volet... C'est que si on intègre bien ce volet biodiversité, système agricole, on va tout de suite rejoindre les questions d'équité que vous avez montrées, hein, puisque l'une des raisons majeures pour lesquelles les pays du Sud sont incroyablement plus fragiles par rapport au réchauffement climatique que les pays du Nord, c'est leur fragilité des systèmes agricoles et leur fragilité alimentaire. C'est pas uniquement qu'ils ont c'est pas parce qu'ils ont moins d'infrastructures en raffinerie ou en béton. Non, c'est parce que leur système agricole, qui représente souvent 50 ou 60% du PIB, est beaucoup plus impacté par le réchauffement climatique. Le troisième point que je voulais dire, c'est le phénomène des rétroactions climatiques. En gros, quand on essaye de comprendre le lien entre les émissions de carbone fossile et l'évolution du thermomètre, comme diraient les économistes, il y a un résidu. C'est-à-dire que On ne peut pas expliquer sur les deux dernières décennies l'évolution de la température mondiale par la seule évolution des émissions de carbone fossile. C'est quoi ce... Alors, comme en économie, du reste, ce résidu, c'est souvent le plus important. Ces résidus, c'est qu'il y a des rétroactions climatiques. Et qu'on est déjà rentré dans un système où l'affaiblissement de quoi ? L'affaiblissement de l'abondance du vivant génère des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre. Et là où c'est le plus évident, c'est sur les puits de carbone. La forêt française absorbe aujourd'hui à peu près la moitié du carbone qu'elle absorbait il y a 15 ans, il y a 20 ans. On continue à augmenter les surfaces, mais simplement la croissance des arbres est plus lente à cause de tas de phénomènes qui sont soit directement climatiques, avec les sécheresses qui freinent la croissance des arbres, soit indirectement climatiques, avec les incendies qui sont plus fréquents, et surtout la remontée des invasifs, puisque le réchauffement climatique provoque la remontée d'un ensemble d'invasifs qui prolifèrent. Alors ça, c'est un petit truc, mais si vous regardez les puits de carbone dans le monde, on a une rétroaction extrêmement importante. Et comment est-ce qu'on peut agir là-dessus ? Il ne s'agit pas de mettre de la rareté sur le pétrole et le gaz, il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut protéger la biodiversité dans tous ces milieux. Et là, j'ai parlé avec des continents. Parce qu'il y a un angle mort incroyable dans tout ça, c'est l'océan. Je rappelle qu'en ordre de grandeur, vous avez sur tous les écosystèmes terrestres à peu près l'équivalent de 4 fois le CO2 qui est dans l'atmosphère. Dans l'océan, c'est 48 fois. L'océan est de très loin le plus grand puits de carbone. Et donc, on sait que des activités anthropiques, des activités humaines qui affaiblissent la biodiversité marine, fragilisent ce puits de carbone. Et donc là, on a un exemple incroyable, et ça c'est très bien documenté dans l'IPBES, et la première cause de l'affaiblissement de la biodiversité marine, c'est la surpêche. Et donc on voit bien que si on n'agit pas très directement sur cette protection des puits de carbone terrestres et océaniques, on n'a aucune chance de stabiliser le climat. Donc vous voyez combien cette interaction est forte entre le climat et la biodiversité, et derrière ça, via les systèmes agricoles et aussi les systèmes de pêche, etc., vous avez des enjeux incroyables d'équité qui concernent les systèmes agricoles, la pauvreté qui est très souvent une pauvreté rurale dans les pays en voie de développement, et surtout la sécurité alimentaire. Et surtout la sécurité alimentaire, qui est quand même les progrès. Moi, je suis administrateur d'une ONG qui fait du développement agricole dans le Sud. Les progrès dans la lutte contre la faim dans le monde ont cessé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. On a même, depuis le Covid, au contraire, une remontée du niveau absolu de la faim dans le monde telle qu'elle est mesurée par la FAO.
Pour revenir sur la biodiversité, alors il y a un rapport qui a été publié en 2021 par le Trésor britannique, qui s'appelle le rapport de Gupta, et qui propose de traiter la biodiversité comme un actif dans la comptabilité nationale. Selon vous, est-ce que c'est une révolution de pensée ?
Moi, je ne suis pas comptable national, si vous voulez... Good luck, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui est malheureusement décédé, qui s'appelle Jacques Weber, qui était le patron de l'un des grands spécialistes de la biodiversité. Il disait la nature n'a pas de prix. Et la nature, c'est comme la Joconde, ça n'a pas de prix. Ce qu'on peut mesurer, c'est le coût des dégradations qu'on fait. Donc, on peut effectivement mesurer localement le coût des dégradations d'un écosystème. On peut mesurer une valeur globale, en plus nationale, de la biodiversité, me paraît un exercice pour le moins, je veux dire, intellectuel. Quoi. J'en vois pas même les déclinaisons opérationnelles après.
Je vais peut-être rebondir sur cette question. En fait, il y a deux approches. C'est vrai que le rapport d'Das Gupta a fait référence à l'approche un peu orthodoxe qui consiste à dire oui, la nature a une valeur, préserver la nature, ça, c'est important pour la société humaine, c'est important pour l'économie, c'est important pour le bien-être des populations, etc. Donc, normalement, on devrait être prêt à payer quelque chose pour garder ça. Donc, voilà, cette valeur, ce consentement à payer de la société pour préserver ça, c'est une bonne base pour intégrer ça dans une comptabilité qui pourrait être effectivement quelque chose comme une comptabilité nationale. Alors, malheureusement, avec toutes les difficultés, qu'on a déjà évoqué, hein, qui est, voilà, on sait bien que c'est très important de préserver la nature, on sait beaucoup moins ce que feraient certains types de destruction, et donc la valorisation reste très théorique et très difficile à faire. Alors, il y a une approche alternative qui a été notamment développée en France, mais ce n'est pas seulement en France, mais qui a été proposée par un comptable national de l'INSEE il y a très longtemps et qui a été repris par notamment une chaire qui était à Dauphine, je crois bien, Christian, et aussi, basée au CIRED, qui consiste à raisonner un peu à l'envers en disant si on détruit un écosystème, combien ça coûterait de le remettre en place, de le restaurer. Et on peut prendre ce coût-là. Donc ça n'a aucun rapport. On ne cherche pas à évaluer les conséquences de la destruction sur la société, sur l'économie, etc. Non, on regarde simplement le coût de préservation ou de restauration de l'écosystème. Et tout ce qu'on fait comme dégradation, eh bien, c'est ce chiffre, cette sorte de dette écologique que l'on devrait intégrer dans les comptes. Donc ça, c'est une approche alternative qui paraît plus simple et qui a la faveur d'un certain nombre de personnes proches de la pratique et de la comptabilité, et aussi d'ailleurs dans le comité dont je parlais, on a des collègues qui poussent à utiliser cette approche, et donc c'est assez intéressant. En économie, on appelle ça la différence entre, c'est pas très important, mais entre l'analyse coût-bénéfice, c'est-à-dire qu'il faut chiffrer les bénéfices pour être capable de valoriser quelque chose. Donc c'est l'approche standard dont je parlais tout à l'heure, qui est très difficile à appliquer pour la biodiversité. Et puis l'analyse coût-efficacité, qui, elle, se donne un résultat et qui dit combien ça coûte d'obtenir ce résultat. Par exemple, restaurer un écosystème, combien ça nous coûterait. Et c'est ce chiffre-là qu'on prend en compte. Donc voilà, donc c'est peut-être un petit message d'espoir. C'est des approches qui sont moins ambitieuses, parce que ça ne tient pas vraiment compte, si vous voulez, la limite, autant que je déballe toute la complexité, si vous voulez, la limite de l'approche coût-efficacité, hein, de cette deuxième approche, c'est que l'objectif qu'on se donne et dont on chiffre le coût, l'objectif, il est fondamentalement arbitraire. Et donc, on ne sait pas très bien si on veut restaurer tel écosystème, pourquoi tel écosystème et pas tel autre, etc. Donc, quel niveau de restauration? Si ça se trouve, restaurer à l'état ex ante d'il y a 20 ans, ce n'est pas suffisant, il faudrait faire encore mieux, etc. Donc, le problème, c'est la définition des objectifs dont on évalue les coûts. Cette définition, elle est potentiellement arbitraire. D'ailleurs, la politique française en matière de chiffrage du carbone, elle utilise cette deuxième approche. Elle ne regarde pas une évaluation des impacts du changement climatique, elle regarde combien coûte la décarbonation selon une trajectoire qui est fixée par la stratégie nationale bas carbone qui est décidée par le système politique, par le gouvernement. Et donc, si cette stratégie est mauvaise, eh bien, le coût qui découle du calcul, du chiffrage de cette stratégie, il est mauvais aussi. Donc, le talon d'Achille de cette deuxième approche, c'est que les objectifs peuvent être éventuellement discutables et controversés.
Je peux rajouter un mot sur ce point? Oui. Bon, je trouve ça assez passionnant. L'approche coût-bénéfice, elle risque aussi de conduire à des résultats assez bizarres, hein, puisqu'aux États-Unis, le social cost of carbone, hein, quand l'administration passe d'une administration républicaine à une administration... Dans une administration démocrate, pardon, une administration républicaine, le coût social du carbone, hein, qui est le prix du carbone par la coût-bénéfice, tombe de 60 ou 75 dollars la tonne à 5 dollars la tonne. Et puis, au deuxième mandat, vous savez qui préside les États-Unis, on supprime le coût social du carbone. Donc, je pense que la vérité, c'est qu'aucune des deux méthodes n'est imparable. Moi, j'ai toujours pensé, depuis que je m'occupe de ces questions climatiques, que la bonne méthode, c'est la méthode coût-efficacité. Et qu'elle n'est pas totalement tributaire des humeurs du gouvernement si on se base sur les rapports scientifiques. Donc, c'est des scénarios... qu'on peut tirer du GIEC, hein, qui sont quand même, je pense, la bonne boussole. Et la stratégie nationale bas carbone, en réalité, elle est l'application française d'une stratégie européenne, puisque les objectifs d'atténuation du réchauffement climatique sont fixés au niveau européen. Hein, donc le dernier en date, c'est le moins 55%, qui a été, je le rappelle,
fixée au Conseil des chefs d'État de décembre 2020. Alors, on a mis quand même en France pratiquement 6 ans à le traduire dans notre stratégie. Enfin, bon, ça, c'est nos problèmes hexagonaux. Bon. Donc, c'est comme ça que ça marche. Bon. Moi, je pense que j'ai toujours... il me semble que mettre les valeurs du carbone ou un étalon ou de la biodiversité sur lesquels on n'a pas d'étalon dans les comptes nationaux, je ne suis pas sûr que ça ait un impact si important que ça. Ce qui me semble beaucoup plus important, c'est la comptabilité microéconomique. Pourquoi est-ce qu'un prix du carbone est un outil intéressant? C'est parce qu'une fois que vous avez un prix du carbone, s'il s'applique bien à tout, ben vous l'avez dans votre compte d'exploitation et dans votre bilan, si vous voulez. C'est bon. Et sur la biodiversité, autant je pense que l'idée de mettre ces actifs dans les comptes nationaux me paraît difficile et pourquoi pas. Et je ne pense pas que ça changerait beaucoup, beaucoup de choses, du reste, dans la pratique. Hein, parce que, par contre, si vous arrivez à obliger les entreprises à déjà essayer de mesurer leurs incidences sur les écosystèmes et ensuite à mettre le coût de soit de destruction, soit de restauration des écosystèmes qu'elles dans leur compte d'exploitation, là, ça change quelque chose. Et c'est un peu ça que disait notre collègue de Dauphine dans sa chaire, qui était une excellente chaire, puisqu'elle était à Dauphine.
Vous êtes tous deux très critiques du PIB comme indicateur de progrès. Question peut-être un peu naïve, mais quel type d'indicateur autre proposeriez-vous à la place?
Moi, je pense qu'on fait une fixation sur l'indicateur du PIB. En réalité, je pense que les citoyens et les citoyennes réagissent essentiellement aux questions qui concernent l'emploi, qui concernent les conditions de vie, et c'est ça qui fait vraiment, je pense, réagir les gens. Et le PIB, ça, je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de gens, hein, le calcul du PIB. Bon, donc, et la question de la transition bas carbone, hein, la transition écologique, c'est quels seront les emplois qui vont être détruits, quels seront les emplois qui vont être créés, est-ce que les emplois qu'on va créer seront de meilleure qualité que ceux qu'on va détruire, et comment est-ce qu'on va faire la transition, ça me paraît vraiment les questions majeures. Quoi. Donc, j'ai jamais été très, très intéressé par les questions de changement de calcul du PIB, et je pense que si on change le calcul du PIB, demain, ça va pas changer grand-chose, je pense, dans les relations sociales. Je peux me tromper, mais... Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Mais en fait, oui, moi, contrairement à toi, je me suis beaucoup intéressé aux histoires d'indicateurs alternatifs. Mais je suis d'accord avec toi que, effectivement, souvent, on fait un peu mousser cette affaire en disant, voilà, il y a une fixation sur le PIB, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, non seulement les populations, mais aussi les responsables politiques s'intéressent à l'inflation, s'intéressent à l'emploi, s'intéressent à la dette publique, etc. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont pris en compte. Le PIB n'est pas le seul. Oui, mais... Et c'est là que je voudrais apporter un bémol à ce que tu disais, Christian. Oui, mais c'est vrai que le PIB, c'est quand même un indicateur phare et qui est le reflet d'une sorte de religion de la croissance qui guide vraiment beaucoup de politiques, de décisions à l'échelle macroéconomique, nationale et internationale. Donc, cette religion de la croissance, il faut en sortir. Et quand je dis la croissance, c'est en fait... voilà, vous savez, il y a ces débats sur croissance, décroissance, etc. Donc, je vais essayer de la faire courte, mais parler de décroissance, c'est quand même un peu déprimant. Et est-ce qu'on est sûr de vouloir faire tout décroître? Vraisemblablement, non. Donc, je pense qu'une bonne façon de recadrer ce débat, plutôt que de dire croissance ou décroissance, ça serait de dire croissance, oui, mais de quoi? Et donc, croissance de l'économie, peut-être pas. Croissance de la destruction de l'environnement, certainement pas. Mais croissance du bien-être, pourquoi pas, au contraire. Et donc, c'est plutôt la question des indicateurs alternatifs, c'est comment réorienter les priorités de la société, des politiques économiques et même des politiques sociales pour se focaliser vraiment sur les véritables intérêts des populations. Et quand je dis les populations, je ne pense pas uniquement aux populations humaines, hein, on peut élargir à d'autres espèces vivantes. Et donc, vous nous demandiez qu'est-ce qu'on proposerait d'alternative, c'est assez simple en fait. Et là, c'est amusant parce que si vous avez fait des études d'économie, vous savez que le point central en économie, bon, c'est vrai qu'en macroéconomie, voilà, il y a des cours sur la croissance du PIB, etc. Mais le concept central en économie, c'est le bien-être. En fait, l'économie est un peu l'héritière de l'utilitarisme de Bentham, voilà, une philosophie qui se centre sur le bonheur, et presque un peu trop, je dirais, parce que c'est une vision un peu étriquée du bonheur. Mais c'est intéressant de voir que le bien-être, c'est déjà central, en fait, dans l'analyse économique et dans l'évaluation des états des sociétés et des politiques publiques. Alors, le problème, c'est pourquoi l'économie n'a-t-elle pas fourni d'indicateurs pratiques accessibles, faciles d'usage, faciles à comprendre, qui reflètent bien le bien-être des populations, le bien-être des sociétés, et qui servent de phare, de boussole pour sortir de cette religion de la croissance matérielle trop étroite pour aller vers quelque chose comme la croissance du bien-être, la croissance de l'épanouissement des êtres humains en particulier. Voilà, et donc, effectivement, il existe des alternatives. Là où je vais peut-être terminer, puis on pourra peut-être continuer un peu la discussion si vous voulez, mais je me heurte souvent dans ce petit monde qui s'occupe des indicateurs alternatifs, je me heurte souvent à une résistance très forte à la proposition que je fais toujours, et qui est la suivante: il ne faut pas chercher un indicateur alternatif, il faut en chercher plusieurs, parce que la société n'est pas unanime sur ce que devrait être notre objectif collectif. Il y a des gens qui ont des philosophies de la vie et des philosophies de la justice sociale qui diffèrent. Il y a des écoles de pensée qui sont différentes, et donc il faut respecter cette diversité, ce pluralisme des écoles de pensée, et chaque école de pensée a le droit d'avoir ses indicateurs, ses statistiques qui lui permettent d'évaluer, de comprendre ce qui se passe dans l'économie et dans la société de façon éclairée. Je me heurte toujours à une forte résistance quand je dis ça, et j'ai un peu de mal à comprendre, mais je me suis encore heurté récemment à cette résistance. Il y a un rapport qui vient de sortir d'un groupe d'experts qui a été mandaté par l'ONU pour proposer une alternative au PIB. Et j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec eux, de participer à des réunions, etc. Et donc j'ai essayé de leur vendre cette idée: ne proposez pas une recherche d'un indicateur alternatif, proposer quelque chose qui reflète le pluralisme de la société. Je n'ai eu aucun succès. Ça ne les intéressait absolument pas. Ils étaient un comité, ils avaient été mandatés, c'était leur job, c'est eux qui allaient proposer des indicateurs alternatifs, et ils n'avaient pas grand-chose à faire des écoles de pensée des différentes sociétés. Donc c'était assez frappant. C'est tous des collègues, j'en connais beaucoup d'entre eux, et je les aime beaucoup, mais c'était assez frappant de voir leur désintérêt pour une approche non technocratique, plus démocratique, plus respectueuse du pluralisme des sociétés. Alors au total, finalement, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc le rapport qui est sorti le mois dernier ne propose pas d'indicateur alternatif unique. Il propose un tableau de bord avec différentes dimensions. Il y a 8 dimensions qui sont des dimensions assez standards sur le bien-être matériel, l'éducation, la santé, etc. Et des dimensions environnementales, des dimensions de sécurité et tout. Donc des choses assez standards. Mais en matière de synthèse, pour faire une évaluation de l'ensemble de ce qui se passe dans la société sur l'ensemble de ces dimensions, là, ils ont calé parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Mais ils n'ont pas non plus cherché à regarder ce qu'il y avait dans les écoles de pensée de la société. Donc ça, c'est un débat que je trouve assez passionnant. Pourquoi les économistes et les statisticiens sont aussi rétifs à simplement lire le journal et regarder ce qui se passe dans la société en termes d'écoles de pensée?
C'est que les indicateurs alternatifs, ils existent quand même depuis longtemps, puisque les indicateurs du développement durable sont publiés chaque année, alors par, je crois que c'est l'organisation de l'ONU qui s'occupe du développement. Hein. Des indicateurs qui ont été mis en place quand même par un économiste célèbre, hein, qui s'appelle Amartya Sen, hein, qui a été prix Nobel d'économie. Mais ces indicateurs, on ne les utilise tout simplement pas, si vous voulez. Donc, moi, je crains fort que... alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs, mais c'est effectivement des indicateurs qui pondèrent le PIB par l'espérance de vie, l'accès à l'éducation des dons. Donc, moi, je ne suis pas certain que, même s'il y a une batterie d'indicateurs comme tu le souhaites, et moi, je pense que c'est la bonne méthode, je ne suis pas certain que ça va changer beaucoup les questions telles qu'elles se posent, qui concernent effectivement l'emploi, l'inflation, l'accès à l'alimentation, l'accès à l'éducation, etc.
Très bien. Justement, je voulais revenir rapidement sur ce terme qui hérisse les poils de nombreuses personnes, la décroissance donc. Est-ce que c'est devenu maintenant un sujet sérieux ou est-ce que c'est encore pris comme quelque chose d'une posture militante parmi les experts, donc notamment en économie ?
La décroissance ?
Oui, tout à fait.
Bon. Je réponds en premier. Hein, bon. Surtout que moi je suis pas comme lui. Moi, je suis pas vraiment un théoricien. Donc, moi, j'ai essayé de réfléchir à la transition énergétique au sens carbone fossile. C'est quoi les impacts en termes de croissance décroissance ? Bon. Moi, j'ai travaillé. Lui, il a dit un peu qu'il avait été aux États-Unis. Moi, j'ai travaillé 4 ans en Algérie. J'ai fait ma coopération dans le secteur agricole et je suis resté au lieu de 16 mois. 4 ans et j'ai fait ma thèse d'état sur le déséquilibre agroalimentaire algérien. Je ne vais pas expliquer à mes collègues algériens qui vivent dans un pays où encore plus de 90% des exportations c'est du gaz et du pétrole et où à peu près 45% des recettes fiscales c'est du gaz et du pétrole et où une grande partie du pouvoir d'achat des habitants c'est du gaz et du pétrole, que sortir du gaz et du pétrole ça ne va pas générer de la décroissance. Il faut être sérieux. C'est quoi le problème de la transition sortir des fossiles pour les pays qui sont extraordinairement dépendants des infrastructures et du capital qu'ils ont accumulé sur le fossile. Et ça concerne d'autres pays que l'Algérie où j'ai pas vécu 4 ans. Donc, mais bon, vous voyez évidemment en ce moment ce qui se passe à Hormuz, etc. Je rappelle quand même que les deux principaux pays qui sont les plus gros exportateurs des 3 énergies fossiles aujourd'hui, c'est les États-Unis d'Amérique et la Russie, il faut le savoir quand même. Donc c'est pas neutre hein, dans les... Je prends l'autre extrême, les pays moins avancés. Dans les pays moins avancés, aujourd'hui, on a, grâce à ce qui s'est passé notamment en Asie et en Chine, un accès beaucoup plus facile qu'il y a encore 10 ans, à des énergies zéro carbone, qui sont essentiellement le solaire et l'éolien. Bon. On n'a pratiquement pas d'infrastructures qui sont liées à la production ou à la consommation d'énergie fossile. Donc si effectivement on met un coup d'accélérateur à la transition énergétique, on va extraordinairement accélérer la croissance. Vous voyez ? Donc c'est le débat croissance-décroissance pour la transition énergétique, il se pose d'abord en fonction des structures des économies. Et comme tu l'as fort bien dit, évidemment, il ne faut pas faire croître tout, il ne faut pas faire décroître tout. Bon. Alors, en Europe, on est dans une situation un peu spéciale. On n'a pratiquement plus, enfin, on a un petit peu encore, mais on n'a plus beaucoup d'actifs qui sont liés à l'extraction et à la production d'énergie fossile, mais on a partout des infrastructures qui sont liées à la consommation d'énergie fossile, soit pour produire des biens industriels, soit pour se transporter ou se chauffer. Bon. Donc, sur l'Europe et la France, l'impact de la transition énergétique sur le régime de croissance, ça va dépendre de la capacité qu'on aura à transférer des actifs bruns liés à l'énergie fossile vers des actifs décarbonés. Dans ces actifs, il y a des actifs financiers. On a fait tout un tralala avec McCarney en 2015 au moment de l'accord de Paris. Les actifs financiers, ça circule à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est vraiment pas une difficulté. Vous n'allez pas me faire pleurer sur les risques de perte de... Je ne vais pas citer de nom, mais des grands opérateurs financiers. Bon, j'ai passé 9 ans à la Caisse des dépôts et consignations. Donc je vais un peu ce que c'est que la finance. À mi-temps, j'étais l'autre mi-temps à Dauphine. Quand même. Les actifs physiques, là, c'est un gros problème. L'actif physique, c'est un gros problème, parce que quand vous avez un barrage ou un oléoduc, vous avez des actifs qui sont faits pour durer. Je vous donne un exemple, juste. Moi, j'ai vu la plus grosse plateforme gazière offshore au monde. Je l'ai vu partir le long des côtes norvégiennes, c'était en 2019. On l'a installé en 2020, à la limite de la mer des Barents, un truc comme ça, ça vaut 10 milliards de dollars. On n'investit pas 10 milliards de dollars hein, pour produire du gaz pendant 3 ans. Vous voyez le problème. Bon, tout le problème des actifs échoués. Et le problème majeur, c'est les actifs humains. Parce que les emplois de l'économie décarbonée de demain ne sont pas les mêmes emplois qu'aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on anticipe ça? Je vous donne juste un exemple. J'ai introduit le grand débat public sur la première on ne dit plus maintenant usine, on dit Gigafactory, je ne sais pas pourquoi, qui fait des batteries dans le nord de la CCA, Ouvrin. Effectivement, le truc, ça vaut un peu plus d'un milliard, ça vaut 1,5 milliard, donc c'est, à l'échelle de la France, c'est un gros investissement. Bon, Bon, mais le problème, ça crée quelques emplois locaux, effectivement, c'est que vous avez en France 230 fonderies qui travaillent à 80% pour le moteur thermique. Que vont devenir ces actifs dans les moteurs thermiques et toute la main-d'œuvre qui est dans les moteurs thermiques quand on aura électrifié le parc automobile et puis les boutiques. Oui, Donc pour moi, vraiment, la question clé sur croissance-décroissance, c'est qu'évidemment, il ne faut pas faire croître le carbone, il faut faire décroître le carbone, il faut faire croître d'autres choses, et que suivant la structure des économies, c'est très différent, et que ça pose des tas de questions, d'ajustements, des choses comme ça, qui sont particulièrement compliquées dans des pays comme l'Europe et la France, où on n'est pas particulièrement doué pour tout ce qui est la flexibilité et la mobilité.
Pour revenir à votre question qui était, est-ce que la notion de décroissance, c'est une posture militante ou est-ce que c'est quelque chose qui est maintenant intégré dans les débats sérieux? La militance et le sérieux, ça va pas, c'est pas forcément en opposition. Hein, mais, effectivement, il y a derrière le terme de décroissance un postulat qui est très discutable, qui est l'impossibilité de découpler l'activité économique et la destruction de l'environnement. Et donc, en gros, si on veut réduire la destruction de l'environnement, eh bien, il faut réduire l'activité économique. Il n'y a pas moyen d'échapper à cela. Donc, ce postulat, il est potentiellement discutable. Hein. Il faut regarder, c'est une question empirique. On voit qu'il y a des formes de découplage qui se réalisent notamment entre émissions de gaz à effet de serre et activité économique. Donc, un découplage au moins relatif est observé dans un certain nombre de pays. Un découplage absolu, c'est-à-dire avoir une véritable réduction des impacts environnementaux accompagné d'une croissance, ça, on attend encore pour le voir. C'est un peu plus compliqué, mais on commence déjà à voir des réductions effectives des émissions dans certaines zones. Donc, ce postulat que le découplage est complètement impossible est sans doute un peu exagéré. Et donc, il faut avoir un débat sérieux, mais ce débat doit être empirique, technique, un peu comme ce qu'évoquait Christian à propos des actifs potentiellement échoués. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une transition vers des actifs qui soient réellement verts? Alors, je voudrais rapidement évoquer un travail que je suis en train de faire avec un étudiant qui essaie de proposer un angle, une perspective sur cette question du découplage qui est un petit peu différente pour réintroduire la question du bien-être dans cette affaire-là. Et donc, au lieu de se demander si l'activité économique peut être découplée de la destruction de l'environnement, on peut se demander si le bien-être, la croissance du bien-être peut être découplée de la destruction de l'environnement. Alors, une façon de l'analyser qui est très simple et qui consiste à faire, à écrire des ratios qui succèdent les uns après les autres, ça consiste à dire, au fond, notre bien-être, il dépend encore trop de l'activité économique, alors que, en fait, il pourrait se concentrer davantage sur des choses qui ne sont pas dans le système économique, et notamment la qualité des relations sociales. On pourrait améliorer beaucoup le bien-être des gens si on améliorait un certain nombre de choses du côté non seulement de leur santé psychologique, mais aussi de leur santé collective en termes de relations sociales. Et donc, découpler, si je peux dire, le bien-être de l'activité économique, hein, c'est ce que certains appellent la démarchandisation, notamment lorsqu'on parle de l'activité économique qui est très largement marchande dans nos économies. C'est une première façon d'envisager les choses. Et après, quand on regarde le découplage dans les termes suivants, eh bien, on peut essayer de découpler l'activité économique de l'usage de matière, et ça, c'est la dématérialisation de l'activité économique, aller de plus en plus vers l'économie de la connaissance, vers l'économie de la science, etc., ou de la culture, et aller dans cette direction, donc avoir des supports matériels qui deviennent de moins en moins essentiels à la valeur, à la création de valeur économique. Et puis enfin, il y a la question effectivement assez physique et technique qui est le découplage entre l'usage des matériaux et les destructions de l'environnement. Et donc ça passe en particulier, mais pas seulement, par la réduction des extractions et le développement de la circularité, hein, le recyclage tous azimuts et la circularité. Voilà, donc c'est une façon un peu partielle, pas du tout complète de voir les choses, mais je trouve qu'elle clarifie un peu les idées. Donc si on veut découpler, pour résumer, si on veut découpler le bien-être et la destruction de l'environnement, il faut démarchandiser, dématérialiser et circulariser.
Alors, votre maître mot, ça reste le bien-être. Vous défendez la primauté du bien-être sur l'économie, si j'ai bien compris. Et il me semble que dans vos travaux, vous insistez beaucoup sur la redistribution et la démocratie participative. J'ai juste jusque-là. Ma question, c'était comment est-ce qu'on peut concilier ces objectifs avec l'urgence climatique, qui nécessite souvent des décisions qui sont assez rapides et centralisées. En fait, c'est est-ce qu'on peut vraiment attendre un consensus démocratique quand on doit prendre des mesures radicales?
Alors, Christian pourrait répondre à ça mieux que moi, parce qu'il a suivi de plus près, je crois, les travaux de la Convention citoyenne. En fait, je vais faire une esquisse de réponse et Christian complétera. Effectivement, il y a l'illusion chinoise qui pénètre un certain nombre de débats. C'est-à-dire, ah oui, si on avait un régime vraiment autoritaire, on pourrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, etc. Donc il faut tempérer cette illusion chinoise, si je peux me permettre de citer un pays, mais voilà, c'est juste un pays symbole, sans le nom du pays a peu d'importance, mais effectivement, il y a cette question importante qui est, on a besoin d'une transition rapide, les choses sont trop lentes, et comment peut-on le faire dans un système démocratique? En fait, quand on regarde ce qui se passe, les freins ne viennent pas des mécanismes démocratiques, les freins viennent, voilà, c'est un diagnostic que je propose, je ne suis pas spécialiste de sciences politiques et Christian pourra compléter et me corriger, mais les freins viennent justement de phénomènes non démocratiques. Les freins viennent principalement de lobbies économiques, de lobbies financiers. Et lorsqu'on pose la question aux citoyens, comme ça a été fait par exemple dans la Convention citoyenne pour le climat, bien les citoyens apportent des réponses qui ne sont pas idiotes du tout. Et donc, a priori, je dirais qu'il y a plutôt une convergence, une corrélation positive entre le degré de démocratie et le degré d'ambition dans les politiques environnementales. Et malheureusement, c'est le déficit de démocratie qui nous empêche d'aller plus vite, plus fort en la matière. Voilà, c'est une hypothèse que je pose, hein, encore une fois, sans prétention de science politique.
Bon, là, on rentre dans des choses un peu... Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de sciences politiques. Moi, je pense deux choses qui me paraissent importantes. Le premier, c'est la question des politiques climatiques. Et les économistes ont une part de responsabilité. On a un peu considéré, l'espèce de microcosme des économistes du climat, je dis vraiment c'est un microcosme, hein, parce qu'on n'est vraiment pas nombreux. Hein. Enfin, on n'était pas nombreux, maintenant il y a quand même plus de candidats. Bon. On a toujours considéré que l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, était prioritaire sur l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique. Et même, on se disait, si on conseille au pouvoir public de trop investir dans l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique, on n'aura plus assez pour l'atténuation. Bon. Un peu comme si c'était un espèce de choix d'investissement où ce que tu ne peux pas mettre sur A, tu le mets sur B réciproquement. Bon, ce qui est complètement faux. Dans la pratique, ce n'est pas du tout les mêmes méthodes et les mêmes enjeux locaux. Et bon. Donc moi, je pense qu'une partie... une grande partie de l'acceptabilité des transitions qui sont lourdes. Il ne faut pas sous-estimer l'incroyable recomposition de l'économie que représente cette transition. Hein. Je pense qu'elle sera beaucoup mieux acceptée par les citoyens que si on rééquilibre le volet adaptation par rapport au volet atténuation. Et c'est assez lié en partie avec la biodiversité. C'est-à-dire que lorsque vous investissez dans la reconstitution d'un milieu vivant, vous en avez assez vite les bénéfices locaux.
Alors que si vous avez réduit vos émissions de gaz à effet de serre de 25% sur les trois dernières années, ça ne va rien changer à votre mode de vie. Et, oui, donc je pense que ça, c'est très important. Et il y a un volet sur lequel c'est très important, c'est le volet agricole. Alors, vous n'ignorez pas qu'en ce moment, on est en train d'essayer de voter au Parlement une loi d'orientation agricole. Et vous n'ignorez pas que, bon, quand même le dire, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, on est quand même dans un contexte qu'on appelle le backlash climatique. Et backlash climatique, hein, matière agricole, il est particulièrement important. Moi, il se trouve que je travaille pas mal sur l'agriculture, j'ai ma thèse d'état dessus. Bon. Et j'ai l'occasion de faire des interventions, pas tous les mois, mais quand même, je fais dans l'année entre 5 et 10 interventions devant des publics agricoles. Je ne leur raconte pas des choses différentes de ce que je vous raconte, simplement. Et je n'ai jamais été sorti de la salle, hein, y compris des salles beaucoup plus remplies que la vôtre, avec plein d'agriculteurs. Je n'ai jamais commencé une présentation à des milieux agricoles en leur disant « il faut réduire vos émissions de gaz à effet de serre, vous avez trop de vaches ». Non, on part des impacts du réchauffement climatique qui durcissent le métier des agriculteurs. Et une fois qu'on part des impacts du réchauffement climatique qui durcissent... Alors là, ils vous écoutent, les gars. Voyez, bon. À partir de là, effectivement, on engage toute une démarche. Mais comment peut-on devenir résilient par rapport à ce durcissement des conditions climatiques? Et assez rapidement, on va voir que la résilience aux impacts du réchauffement climatique passe par des changements de méthode agricole qui, je ne rentre pas dans les détails, consiste à basculer d'un système qui s'est beaucoup trop industrialisé, monoculture, enfin, à base de monoculture, de chimie, etc., vers de l'agroécologie. Et à ce moment-là, on va découvrir que c'est en visant la résilience et l'agroécologie qu'on va pouvoir également adopter des pratiques agricoles qui sont moins perturbantes pour le climat, à la fois pour les émissions hors CO2 spécifiques de l'agriculture et aussi pour le stockage, les stockages du CO2 dans les sols. Bon. Donc ça, c'est quand tu causes à des agriculteurs en Beauce ou dans le Perche ou ailleurs, ou en Bretagne. J'ai fait un truc en Bretagne avec 500 agriculteurs devant moi. Je suis sorti vivant. Hein. Bon. Au sud. Bon, moi, je suis engagé dans une ONG de développement agricole. Qu'est-ce qu'on fait dans le bassin arachidier du Sénégal, hein, qui n'est pas la région mitoyenne, hein, du Sahara, qui est un peu une région centrale. On fait de l'agroécologie. On développe avec des petits producteurs agricoles des méthodes de production qui consistent à réintroduire du vivant. Là où, pendant une période coloniale qui malheureusement s'est poursuivie sous l'angle des mises en valeur agricoles assez longtemps après l'indépendance, on a pratiqué de la monoculture qui érode complètement les sols. Et évidemment, il y a un aspect lutte contre la pauvreté qui est la raison d'être, hein, d'AgriSud International, mais il y a des volets écologiques extrêmement importants. Et puis, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, on met des barrières végétales. On remet chaque fois qu'on peut des arbres associés au sol, on fait revivre les sols. Et qu'est-ce qu'on fait? On freine la désertification. Et c'est beaucoup plus efficace que les espèces de programmes qu'on a longtemps voulu faire. On disait, on va planter des milliers d'arbres. J'ai vu en Algérie, hein, des programmes de la Banque mondiale... Trois ans après, les consciences de la Banque mondiale revenaient voir « Ah ben les arbres, ils sont pas là, non ?» Parce qu'on avait oublié qu'il y avait des pasteurs et des systèmes. Oui, donc je pense que une grande partie des questions... Alors évidemment, démocratie, dictature, moi je suis démocrate et je resterai démocrate. Et je pense que c'est le... C'est pas de la science politique, c'est bon. Mais il me semble que la question... extrêmement importante aujourd'hui, c'est de comment est-ce qu'on obtient non pas l'acceptabilité, mais la désirabilité de cette transition en partant de l'impact du réchauffement climatique et de la baisse de la biodiversité sur la condition de vie des producteurs, des citoyens, et c'est particulièrement vrai pour tout ce qui concerne le carbone vivant, qui, à mes yeux, deviendra la question majeure sur le climat d'ici une ou deux décennies, parce que la transition sur le carbone fossile, elle est commencée. Alors, elle est très chaotique, elle est trop lente, elle est... La décorrélation entre le PIB et les émissions, on la voit déjà, elle est très manifeste en Europe, et je pense qu'on va bientôt la voir en Chine. Enfin, pour l'instant, on ne la voit pas encore tout à fait, mais bon... Mais sur le carbone vivant, on n'a rien décorrélé pour l'instant. On n'a rien décorrélé. Les rétroactions climatiques, elles continuent. Oui. Donc je pense que ce point me paraît très important.
Est-ce que je peux ajouter un mot à propos de la démocratie? Il y a un volet de la démocratie qu'on évoque très rarement et qui est pourtant sans doute assez important, c'est la démocratie dans l'entreprise. On pense souvent à la démocratie politique, et je parlais de convention citoyenne, mais en fait, les entreprises qui sont plus démocratiques dans la mesure où elles intègrent plus leurs parties prenantes dans les prises de décision, elles sont en général plus attentives à leurs responsabilités sociétales. Et donc, voilà. Alors que celles qui sont concentrées uniquement sur le profit pour l'actionnaire, la valeur pour l'actionnaire, ont une attitude beaucoup moins ouverte par rapport à ces questions. Donc, c'est une dimension qui est importante. Il y a des réflexions sur la démocratie dans l'entreprise qui ont eu lieu depuis très longtemps et qui acquièrent récemment un dynamisme nouveau. Il y a des mouvements il y a un rapport qui a été remis au gouvernement espagnol récemment sur la question. Donc voilà, les choses bougent aussi sur ce front-là, et je pense que la question de la responsabilité sociale de l'entreprise a beaucoup à voir aussi avec la démocratie dans l'entreprise.
Oui, et j'en remets une couche, la démocratie locale aussi, qui est liée souvent, mais on voit très bien il y a des choses incroyables qui se passent lorsqu'on arrive à créer des réseaux décentralisés localement, avec à la fois des entreprises qui sont plus citoyennes que d'autres, avec des acteurs de la société civile, etc. Enfin, c'est vraiment très... Il faut quand même aujourd'hui trouver des trucs qui marchent et qui vous donnent un peu d'espoir, quoi, parce que là, effectivement, tout n'est pas rose quand même, quoi.
Très bien, je vous remercie en tout cas. Nous allons passer maintenant aux questions du public. N'hésitez pas, si vous avez des questions, nous avons un petit quart d'heure pour y répondre.
Est-ce qu'il y a des questions?
C'est bon, c'est toujours au fond que ça commence. En plus, moi j'ai oublié mes écouteurs.
Merci en tout cas. Pensez-vous que la science, dont l'IA, on n'en a pas parlé, pourrait nous aider pour ce futur ?
Tu veux répondre ou je commence ?
Je veux bien commencer, puis tu compléteras. Bon, évidemment, la science est absolument indispensable. Elle est déjà indispensable pour faire les bons diagnostics. C'est-à-dire que sur ces questions de dérèglement des systèmes naturels globaux, hein, que sont le climat, vous n'avez pas cité la couche d'ozone, hein, mais bon, c'est quand même un sacré truc aussi, qui montre quand on peut arriver à des solutions. La science, déjà, c'est ce qui permet de diagnostiquer, parce que ces questions de dérèglement globaux, c'est pas par les ONG environnementales, hein, que ça vient de la société, c'est par la science. Donc déjà, on a besoin de la science pour ça. Bon. Et puis évidemment, aussi bien sur la transition agroécologique que sur la transition énergétique sortie des fossiles, la science est à l'amont de toutes les innovations qui sont extrêmement, sont totalement indispensables. Bon. Je dis deux mots, bon, on ne va pas parler de l'énergie, je dis deux mots sur l'agroécologie. Très souvent, on a une vision complètement fausse de l'agroécologie. Quand on n'est pas agriculteur et qu'on est loin du milieu naturel, on pense que l'agroécologie, c'est facile. Et que, en gros, hein, on met quelques moutons sur le plateau du Larzac et ça ne marche pas du tout. L'agroécologie exige beaucoup plus de connaissances. Il y a une partie des connaissances qui sont des connaissances d'observation par les producteurs agricoles qui sont locaux, mais vous avez aussi une connaissance beaucoup plus fine de mécanismes du vivant dans les écosystèmes, notamment dans les sols, sur lesquels on a incroyablement besoin de la science. Sur l'intelligence artificielle, je te laisserai répondre.
Alors en fait, j'avais envie d'évoquer, justement, je pensais aussi à l'agroécologie qui est un bon exemple où la meilleure connaissance, le développement des connaissances nous fait aussi comprendre que certaines vieilles pratiques avaient du sens et avaient leur intérêt. Donc ce n'est pas forcément des choses qui sont très spectaculaires en termes d'outils ou d'équipements, mais c'est quelque chose qui demande de la complexité, de la finesse et de la compréhension des interdépendances dans les milieux dans lesquels on évolue. J'avais envie d'évoquer peut-être plus que l'IA, qui effectivement peut être un outil pour accélérer la recherche, la géo-ingénierie. Et donc dans la série des solutions techno que les gens peuvent envisager, il y a effectivement l'idée d'essayer de tordre les mécanismes climatiques de façon à mieux les contrôler, par exemple en contrôlant la radiation du soleil et la façon dont elle arrive sur le sol, par exemple en mettant des aérosols qui la bloqueraient, ou d'autres moyens, par exemple, d'intervention sur l'acidité de l'océan, des choses comme ça. Donc, je crois qu'effectivement, il faut avoir une attitude ouverte par rapport aux solutions scientifiques, et on pourrait imaginer qu'il y ait des découvertes vraiment révolutionnaires. Hein, si on est dans une posture, si je prends l'exemple du changement des énergies fossiles, les énergies fossiles, c'est quand même un peu coûteux à extraire. Imaginons qu'un jour, on trouve une façon peu coûteuse et très efficace d'extraire de l'énergie fossile de l'atmosphère directement, en récupérant le CO2 de l'atmosphère, eh bien, on aurait une source de CO2 qui serait abondante, et on devrait remercier, au lieu d'accuser les pollueurs des générations précédentes d'avoir mis tout ça dans l'atmosphère, on devrait les remercier du grand service qu'ils nous ont rendu en rendant le CO2 accessible grâce à ces nouvelles technologies. Donc je plaisante à peine, mais voyez, la science peut éventuellement complètement renverser certaines perspectives, y compris des perspectives morales et géopolitiques, etc. Alors on n'en est pas là, malheureusement, et la géo-ingénierie pose beaucoup de questions, notamment en matière de gouvernance mondiale, parce que si un pays peut se permettre de changer le climat en émettant des aérosols, mais il va changer aussi le climat des voisins, etc. Donc il y a des gros problèmes de contrôle de ces techniques, et puis aussi des problèmes de contrôle des conséquences. On risque de jouer aux apprentis sorciers et d'avoir des conséquences imprévues, notamment en matière de biodiversité et autres. Donc voilà. Il faut effectivement être très ouvert par rapport aux perspectives scientifiques, mais en même temps prudent. On a déjà fait beaucoup de bêtises dans les civilisations antérieures qui ont décliné à cause d'usages de matériaux qui étaient toxiques, etc. On est en train de refaire la même chose avec le plastique et les pesticides. On risque de faire la même chose avec la géo-ingénierie. Donc il faut être très prudent, être aussi rationnel que possible.
Trois questions. Alors, comme on a un temps limité, on va prendre les trois questions d'affilée, d'accord ? Et ensuite, on laissera le souhait aux intervenants de répondre. Donc, on va prendre la première question, je vais monter. Donc, on commence ici.
C'est une question simple, malheureusement politique. On se souvient avec émotion de Laurent Fabius annonçant l'accord de Paris. Est-ce que, à votre avis, les COP ont encore un sens aujourd'hui ?
Merci. La deuxième question. On va prendre la deuxième question.
Bonjour. Tout à l'heure, en parlant de la décroissance, vous avez parlé que, le but n'étant pas de fermer les fonderies qui fabriquent les moteurs thermiques en France, mais peut-être pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper la fin du thermique et former les générations futures la fabrication des batteries dans les gigafactories, par exemple, et ainsi on pourrait, changer la manière dont forment les futures personnes qui travailleront dans ces gigafactories, et aussi mieux orienter les subventions pour les entreprises afin qu'on construise plus de gigafactories ou plus d'usines pour les batteries électriques.
Merci. Donc, on a la question de l'intérêt encore des COP, la question de la formation et du transfert de compétences en fonction des modèles économiques. Et la dernière question.
Moi, c'est un petit amalgame de plein de points que vous avez évoqués, notamment avec l'agroécologie, qui est assez efficace et se transmet assez bien dès lors qu'on explique aux acteurs impliqués l'intérêt que ça porte et à quel point c'est un système solide et résilient, etc. Cependant, il y a d'autres formes de restauration de l'environnement qui sont très utiles, je pense aux zones humides, mais qui n'ont pas d'intérêt pour les particuliers ou pour les populations directes. C'est un très bon puits de carbone, donc c'est une très bonne chose à grande échelle, mais ça n'a pas d'implication directe. Donc comment on peut venir impliquer les gens et intéresser ça et motiver le développement de la restauration de ces écosystèmes, par exemple, qui n'ont pas d'intérêt direct et personnel plutôt.
Merci. Qui commence ? Vous pouvez répondre dans l'ordre que vous souhaitez.
Oui, bah, je vais peut-être parler un petit peu des COP. Les COP, effectivement, sont très critiquées et remises en cause parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans et autour qui ne sont pas forcément très positives. Mais il y a aussi des choses positives qui s'y passent. Donc, ce sont des lieux de rencontres, de négociations qui sont importants. Ce qu'on peut regretter, peut-être, c'est le fait que c'est devenu une routine centrée sur un sujet un peu étroit et il y a une difficulté à coordonner les différentes COP sur différents sujets, les sujets de l'océan, de la biodiversité, etc. Donc, tout ceci se télescope un peu avec d'autres arènes comme le G20. C'est plutôt que de dire que ça ne sert plus à rien et c'est simplement investi par les lobbies, etc. La question, c'est plutôt la coordination et le fait de rendre plus efficaces ces différentes arènes pour que les voix pertinentes y soient entendues et que les actions soient coordonnées. En fait, on raisonne encore trop en silo, aussi bien au niveau des gouvernements qu'au niveau des COP, finalement. C'est ça qu'on pourrait regretter. Peut-être un mot sur les zones humides, donc les écosystèmes, mais Christian pourra compléter, qui n'ont pas d'usage économique direct, mais qui ont une grande valeur. Effectivement, on ne peut pas espérer qu'il y ait des secteurs économiques qui se mettent dessus, sauf éventuellement, mais c'est un sujet que j'avais envie d'évoquer tout à l'heure, et puis ça m'est sorti de la tête, mais c'est la question des compensations carbone. Donc il y a des business qui se mettent en place pour vendre des crédits carbone. Et donc ils peuvent construire un modèle économique autour de la préservation de zones humides. Ça existe et ça peut se faire. C'est très controversé parce que ces histoires de crédit carbone posent des tas de questions de gouvernance, de contrôle, de qualité et aussi de préservation, de durabilité du modèle. Donc c'est quelque chose qui n'est pas impossible, même sur un plan strictement économique, mais c'est difficile et controversé. Mais voilà, il y a toujours quand même les acteurs publics qui peuvent prendre leurs responsabilités. Et il y a des réserves naturelles, il peut y avoir des réserves qui sont motivées non pas par la beauté des paysages, mais aussi par les puits de carbone que ça représente.
Le dernier point sur la formation.
Alors, je vais faire dans le sens inverse des questions. Bon, sur les zones humides, c'est pas exactement des crédits carbone il faudrait faire des crédits carbone avec un volet biodiversité quand même pour éviter des risques. Bon. Je rappelle quand même que la première raison de disparition des zones humides, c'est l'extension des systèmes agricoles. Donc on revient, si vous voulez, au rôle assez crucial de la transition agricole. Moi j'ai un exemple d'opérateur français sur un projet de zone humide, mais on n'ira pas nous, enfin je dis nous, c'est AgriSud International. Je pense que la condition pour que ça fonctionne, c'est qu'effectivement on fasse des compensations locales auprès des acteurs, et notamment des acteurs agricoles. Et surtout pas vouloir, avec des crédits carbone de la zone humide qui est située quelque part en Indonésie, compenser les émissions carbone de Unilever ou Danone. Je pense que c'est la condition sine qua non. Il faut que ce soit local et intéresser les acteurs locaux. Et les premiers, généralement en cause, c'est les agriculteurs, qui peuvent avoir aussi des bénéfices induits du maintien de la zone humide. Mais alors après, c'est très compliqué quand on rentre dans le détail, parce que ça dépend des structures agricoles locales. Et souvent, vous aurez un ou deux agrégats, c'est un peu comme les bassines, hein, vous savez, le problème des bassines, hein, bon, on ne va pas rentrer dans des trucs trop polémiques, mais en même temps, si on veut faire avancer les choses, il faut rentrer dans les choses polémiques. Hein. C'est un peu comme le problème des bassines, hein, les zones humides, c'est que vous allez avoir un ou deux opérateurs agricoles, généralement les plus gros, parfois qui viennent d'un autre environnement, qui voient intérêt, en gros, qu'est-ce qu'ils font, hein, ils drainent, et puis bon, donc à détruire la zone humide, et beaucoup de petits agriculteurs qui entourent la zone humide, qui ont des bénéfices indirects, de la biodiversité dans la zone humide, qui eux vont disparaître du paysage. Et parfois disparaître physiquement, parce que ça peut être violent dans certains contextes. Sur l'anticipation et les formations des acteurs, évidemment, vous avez raison, 100 fois raison. Hein, et moi, je suis dépité de voir combien on n'anticipe pas les reconversions professionnelles et les besoins de formation pour l'économie bas carbone, si vous voulez. Bon. Alors, c'est pas arrangé dans le système énergétique français, c'est pas arrangé par le fait qu'une grande partie des emplois énergétiques en France sont des emplois avec une convention extrêmement protectrice, hein, et donc, je vous dis, attention, aller poser des panneaux photovoltaïques sur un toit, c'est pas pareil, hein, que d'être dans une grande société avec un statut. Mais évidemment, ça, c'est le nerf de la guerre. Hein, et on n'anticipe pas du tout les changements professionnels. Sur les COP, 100 fois d'accord avec toi, hein, sur les... À l'heure actuelle, vous avez la COP climat, la COP biodiversité et la COP désertification. Mais bon... évidemment, il faut coordonner tout ça. Bon, nous, à AgriSud, on va... Bon, moi, j'ai fait, personnellement, j'ai jamais été représentant du gouvernement français, mais j'ai participé à toutes les COP, entre celle de Montréal, qui devait être en 2005 ou 2006, et celle de Copenhague, et puis j'ai fait un peu la COP de Paris. Bon. Je pense que sur la COP climat, il y a un problème de gouvernance évident, c'est que la règle du consensus n'est pas la bonne règle. C'est un peu pareil, hein, en Europe, hein, sur les... la règle du consensus n'est pas la bonne règle. La démocratie, ce n'est pas le consensus, ce n'est pas être tout le monde d'accord. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure. Donc je pense que tant qu'on va se trimballer avec cette règle du consensus, on va continuer à faire du surplace, parce que c'est du surplace qu'on fait sur les choses. Bon. Évidemment, le retrait américain est quand même un sacré coup, hein, dans les COP, hein, puisque le... C'est pas, en plus, c'est un retrait épisodique. Hein, c'est la troisième fois que les Américains sortent des COP. Hein, donc, même si on pense que les États-Unis sont sur la voie du déclin, il reste quand même un centre important. Donc, mais je pense que, effectivement, un monde sans COP serait probablement pire qu'un monde avec des COP. Donc, il faut maintenir les COP. Mais un, il faut mieux les coordonner. Et deux, il faut arriver à avoir d'autres modalités de prise de décision, parce que cette règle du consensus fige complètement les choses. Bon. Et puis, peut-être après, le format un peu à revoir, parce que ça donne un petit peu l'impression d'un entre-soi au bout d'un moment, les COP. Je ne sais pas si tu vas souvent dans les COP, mais en gros, vous êtes dans la COP, effectivement, il y a quand même plusieurs milliers de personnes, mais c'est toujours les mêmes, hein, qui sont dans... Donc vous êtes une espèce d'enceinte, vous êtes complètement isolé du monde extérieur, quoi. Enfin, il y a un vrai problème de gouvernance, quoi. Voilà.
Très bien, je vous remercie. On a dépassé un petit peu le chrono, mais merci énormément d'être venu et merci pour ces échanges très intéressants. Merci à l'initiative Avenir Commun Durable pour nous avoir permis d'organiser tout cela. Merci à toi, Benjamin, pour cette organisation et merci à notre parrain, Jean-Marie Tarascon, professeur de chimie ici. Merci également à vous, public, d'être venu ici ce soir et d'être resté un petit peu après en dehors du créneau. Merci à toi, Zoé, en tout cas, pour cette organisation. Un gros boulot ensemble. Et puis, vous avez bien pu noter que la semaine prochaine, il y en a encore une, qui aura lieu donc le 28 mai, ici même. Et je vous remercie encore. Et je vous prie juste de quitter la salle assez rapidement, parce qu'on va devoir évacuer assez vite les locaux. Je vous remercie encore.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.